Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Dumandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Des sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine au Mali, quatre ont particulièrement retenu notre attention. L'attaque d'un checkpoint de l'armée malienne, c'était donc mardi dans la région de Tombouctou. L'annonce de la création d'un nouveau groupe politico-militaire dénommé donc l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité PEUL et la restauration de la justice. Le retour de la confiance entre le Mali et le FMI qui vient de mettre à disposition de Bamako, plus de 17 milliards de francs CFA et la création d'un intergroupe parlementaire pour, dit-on, soutenir donc le programme d'activité du président de la République, Brahim Boubacar Keïta. Les journalistes qui prennent part au débat sont finalement au nombre de 5. Il s'agit de Célia d'Almeida, du journal du Mali. Alou Diawara, il est journaliste indépendant. Nous avons Mohamedou Bokoum qui est de la radio Kaoural à Mopti, Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou, ils seront tous les deux en ligne. Nous avons également dans ce studio Oumar Koulibaly, il est donc directeur de publication, je crois bien savoir, du Pays Émergent, ça s'appelle comme ça, Pays Émergent. À la présentation, Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Auditeurs, auditeurs, bienvenue. Premier sujet de cette émission, l'insécurité avec l'attaque mardi dernier d'un checkpoint de l'armée malienne dans la région de Tombouctou, une région qui avait déjà enregistré 10 jours avant une autre attaque du genre. L'armée malienne ciblée donc de plus en plus par des individus armés non identifiés. Que peut-on avancer comme explication? Nous allons commencer par vous, Célia d'Almeida.
Bonsoir Fomba, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Tamani et aux collègues. Comme explication, je pense que c'est celle qu'on avance depuis toujours. Ce sont ces groupes armés, ces jeunes hommes armés qui sont dans cette zone-là et qui n'ont plus d'activité particulière qui leur permet d'avoir des revenus. Donc, ils s'attaquent, d'après ce qu'on a entendu dire, que c'était un véhicule qu'ils voulaient enlever et le truc a dégénéré. Donc bon, je pense que tant que le fameux processus DDR n'aura pas été vraiment entamé et que toutes ces armes-là n'auront pas été récupérées et ces personnes-là cantonnées, le problème va perdurer.
Alors, vous, Alou Diawara, qu'est-ce que vous pensez de cette attaque?
Moi, je pense que on devrait plutôt chercher à savoir qui se cache derrière ces attaques, et notamment toutes ces attaques, on les attribue notamment au groupe djihadiste, autrement appelé terroriste ici. Tant que on n'a pas les moyens suffisants pour savoir leur mode opératoire, pour savoir comment ils opèrent, pour savoir qui est-ce qui probablement les soutient, qui sont les complices, comment ils planifient tous ces actes d'insécurité un peu partout, pas qu'à Tombouctou, seulement dans le nord. Tant que on n'a pas mis les moyens qu'il faut pour arrêter ces attaques-là, je pense que ça sera quelque chose de régulier, de récurrent, qui ne va pas cesser au fil des semaines, j'allais dire même des jours.
Oumar Koulibaly, de Pays Émergent.
Oui, moi je pense que ce qui se passe actuellement, ça devient une habitude. Chaque jour qui passe, on apprend que les FAMA sont attaqués. Si ce n'est pas les FAMA, c'est la MINUSMA qui perd des éléments parce qu'elle n'est pas là pour répondre à la violence terroriste, à lutter contre les terroristes, mais protéger les civils, ce qui est un non-sens. Pendant ce temps, elle perd des éléments. La MINUSMA a payé le plus lourd tribut de toutes les missions onusiennes dans le monde. Ce qui se passe est une habitude. Ça devient habituel, ça devient presque banal, c'est malheureux de le dire. Parce que nous sommes dans un maelstrom de violence djihadiste. On ne sait même plus comment y faire face. C'est ça le problème. C'est un aveu d'impuissance de la part même de l'Organisation des Nations Unies. Et par ricochet, le gouvernement malien, les FAMA ont été renforcés en capacité opérationnelle, en armement, mais on a l'impression que cette partie, le septentrion, de Gao à Kidal, échappe justement aux autorités qui ne sont pas capables d'assurer la sécurité des citoyens. D'ailleurs, à partir du centre de Mopti, il n'y a plus d'État, si je veux dire, parce que l'administration, tout le monde a réfugié vers la capitale parce qu'ils se sentent menacés. C'est ça le constat actuel.
Alors, nous allons à présent joindre quelqu'un qui est plus proche, en tout cas géographiquement, de ce qui se passe à Tombouctou. Il s'agit de Yeya Tandina, qui est donc en fait correspondant de l'ORTM sur place. Alors, Monsieur Tandina, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aujourd'hui avec ces attaques qui se multiplient, 2 attaques en 10 jours? Comment cela se comprend là-bas sur place à Tombouctou?
Bon, moi je fais une lecture de la situation générale, c'est que ce n'est pas seulement les FAMA qui sont ciblés, il y a l'aménagement, il y a même les groupes armés signataires de l'accord. Parce que si on fait déjà un recours, vous voyez déjà la semaine passée, le MNLA a perdu son porte-parole, les FAD qui a été enlevé. Ensuite, la semaine suivante, encore il y a le HCIA qui a perdu également son chef de poste militaire qui a été assassiné devant sa porte. En plus, il y a eu 2 tentatives d'attaque de checkpoint parce que la première a échoué, la seconde aussi. Mais malheureusement, nos militaires sont toujours blessés. Donc, moi, je dis que c'est d'une façon générale. Et vous voyez, l'aménagement, il y a juste 2 jours, mais toutes les nuits, elle essaie de faire une patrouille nocturne à travers des hélicoptères. C'est bien, c'est à titre d'initiative, même si on sait qu'ils ne vont pas agir directement. Mais quand même, c'est bien. Et ce que moi, je reproche... ce que j'ai dit de toute façon pour quelqu'un qui essaie de voir au niveau de tous les camps qui abritent certains éléments pour pouvoir les maintenir, pour pouvoir les immobiliser, vous remarquez qu'au niveau de ces camps, tous les éléments sont en congé. Ils sont en congé avec leurs armes, ça c'est un. Ensuite, certains camps sont là pendant 3 mois, n'ont même pas reçu leur approvisionnement. Donc, toute chose qui peut les pousser à des actes terroristes comme ça. Parce que si on enlève un véhicule de l'armée, on va le vendre aux islamistes, ça fait de l'argent. Vous voyez, il y a des actions comme ça qu'on ne peut étudier que quand on est sur le terrain, on peut comprendre de telles choses. Mais tant que la situation est fragilisée, les bandits auront toujours de la force à attaquer les populations, à attaquer les femmes, à attaquer tous ceux qui soutiennent aussi les femmes.
Alors, Monsieur Tandina, on sait que l'attaque n'a pas été revendiquée, mais on sait en même temps que 2 assaillants ont été arrêtés. Et selon vous, est-ce que ça va permettre de pouvoir mieux comprendre, de voir un peu plus clair dans ce dossier?
Oui, avec l'arrestation de ces 2 assaillants, ça va nous pousser. Parce que généralement, si c'était les groupes djihadistes, ils allaient revendiquer. Mais c'est pourquoi on a dit que c'est des groupes organisés, c'est des professionnels de la violence. Ce sont eux, généralement, qui font des trucs comme ça. Ils ne peuvent pas revendiquer parce qu'ils appartiennent à aucun mouvement. Et se retirer des autres groupes, ça peut être ceux de la plateforme comme ceux des groupes signataires, leurs éléments les échappent aussi. Donc ces éléments peuvent poser des actes comme ça et alors ils ne peuvent pas revendiquer. Mais si réellement c'était des...
Alors, je crois que nous pourrons rejoindre Yaya Tendina dans un instant. Le temps de nous rendre donc à Mopti. À Mopti où se trouve Mohamedou Bokoum, qui est donc le directeur de la radio Kaoural. Alors, Monsieur Bokoum, vous suivez sans doute de près ce qui se passe dans le septentrion, notamment ces attaques qui se répètent donc à Tombouctou. Quelle lecture en faites-vous?
En fait, moi, je dirais que ces attaques sont devenues le quotidien des populations, tant que c'est les FAMA ou les éléments de la MINUSMA qui sont. Mais n'oublie pas que surtout, c'est les civils qui sont attaqués, les forains qui quittent les marchés pour aller dans leurs véhicules pour attaquer à tout bout de chemin. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas les militaires seulement qui en souffrent, mais surtout les civils qui se trouvent de la région de Gao et de Mopti, précisément, dans le Delta insulaire du Niger. Donc, ces attaques sont une violence, ces attaques sont quotidiennes. Et moi, je dirais qu'il y a une on ne peut pas tout le temps voir des attaques se passer par. Identifiés encore, toujours ces personnes sont non identifiées, les affaires sont tuées, on ne sait pas comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, qui les bases, où ils commandent, quoi, etc. Donc, moi je dirais que c'est en fait c'est une négligence de la part et d'autres, et de l'État et de la communauté internationale et même de la population au sein de laquelle se trouvent souvent ces assaillants-là. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème général qui est là, qui mérite réflexion.
Alors, vous pensez que la population a sa partition à jouer dans la prévention de ce genre de situation?
Effectivement, parce que c'est toujours, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est des personnes non identifiées. Ils sont où? Ils quittent un lieu pour aller attaquer. Moi, je sais que ces gens sont logés à l'intérieur de certaines villes et les populations savent qui ils sont et quoi ils font. Quand tu vois des personnes suspectes, mais malheureusement pour cette population, la plupart des cas, je prends le cas précisément de la région de Mopti, les gens ont peur de les dénoncer pour ne pas aller se faire tuer après. Donc la population a un rôle très important à jouer pour indiquer ce genre de situation.
Alors, Célia d'Almeida, vous venez de l'entendre, deux assaillants quand même ont été arrêtés lors de cette récente attaque le mardi. Est-ce que c'est avec l'implication de la population que cela est arrivé? Vous êtes, vous, renseigné à ce sujet?
Ah non, j'avoue que non. Mais je pense aussi qu'il faut saluer nos forces de défense et de sécurité qui sont de plus en plus armées pour faire face à ce genre de situation. Il est vrai qu'il y a 2 ans, 3 ans, on était très surpris par cette guerre asymétrique qu'on ne connaissait pas et qu'on ne savait pas comment gérer. Au jour d'aujourd'hui, de plus en plus de groupes sont, d'éléments sont formés et savent comment réagir de manière efficace à ce genre de situation. Donc je pense que c'est vrai certainement que la population agit pour aider du côté du renseignement. C'est très très important. On sent d'ailleurs qu'il y a un ras-le-bol vraiment du côté de la population de Tombouctou qui réagit beaucoup quand ce genre d'activité criminelle se déroule. Donc je pense qu'effectivement, elles doivent, c'est sûr, elles doivent aider les forces en présence avec des renseignements, mais je suis convaincue aussi que c'est la montée en force de la capacité de nos forces armées qui permet aussi ces petites victoires, parce que si on est des petites, et la bataille est encore très loin d'être gagnée.
Alors, en 2 minutes, vous, Alou Diawara, dites-nous, il y a certains analystes qui estiment que ces récentes attaques contre les FAMA ont une signification politique. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et ça, je n'en sais rien du tout, mais moi je pense que par là où le bas blesse beaucoup, c'est le problème de renseignement. Et ces FAMA aujourd'hui, même si elles sont propulsées un peu en avant, elles ont de plus en plus de moyens, les formations viennent, elles sont mises en confiance, mais il y a un problème d'information et de renseignement qui se situe à leur niveau, à savoir les populations ont du mal à leur donner des informations, toutes les infos qu'elles ont, par peur de représailles. On a vu au fil de les 6 derniers mois, quelques personnes ont quand même été tuées, assassinées, parce que ces personnes-là étaient soupçonnées d'être des complices, des informateurs de tel ou tel groupe. Donc il y a ce phénomène-là qui empêche vraiment les populations de coopérer pleinement, pas qu'au sein des forces maliennes seulement. Et je me rappelle bien récemment, le général chef d'état-major de la force MINUSMA disait il y a quelques semaines que le véritable souci qu'ils ont aujourd'hui, c'est le souci de coopération en matière d'information et de renseignement, aussi bien de la part des groupes signataires de l'accord, mais aussi de la part des populations. Chose curieuse, il a même souligné que ceux-là, les forces avec lesquelles la MINUSMA coopère déjà, que cette coopération en matière d'information était faible, à savoir Barkhane et la force malienne. Donc c'est dire que c'est vraiment un véritable problème. Tant qu'on ne s'y attaque pas à la racine, il est fort probable que les attaques vont continuer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
nous abordons une nouvelle à présent, une nouvelle qui a fait le tour des rédactions en début de semaine. Il s'agit de la création d'un nouveau groupe politico-militaire, l'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité peuple et la restauration de la justice. Derrière le mouvement, un jeune homme dont le nom dit peu de choses quand même au Malien, Oumar Aljana, il se dit non djihadiste et non indépendantiste, mais il précise sa cible, l'armée malienne. Comment prendre cette annonce? Nous posons la question en premier lieu à Mouhamadou Bokoum de la radio Kaoural de Mopti. Monsieur Bokoum.
Oui, c'est le combat.
Allez-y.
Voilà, par rapport à cette création de ce ANCPRJ-là, moi je dirais que c'est un jeune homme venu de nulle part. C'est un jeune homme qui n'est pas peul d'abord, il faut le rappeler. Il n'est pas peul, c'est un Touareg. Hein, deuxièmement, c'est un ancien de MNLA, parce qu'on a fouillé un peu son background, on a su qui il était. Et il vient des zones de vers les Sumpi, Farmaké, etc., où les Peulé, les Touaregs sont quand même là-bas. Je crois que. Bref, donc ce n'est pas un peu d'abord. Il n'a pas cette carrure. Hein, deuxièmement, selon nos enquêtes, en tout cas au niveau local, on a contacté tous les responsables des mouvements et associations PEUL qui sont là, qui se disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce mouvement. Deux. Troisièmement, toutes ces associations et tous ces mouvements sont engagés. En tout cas, je parle du niveau local, pas au niveau régional, au niveau de Mopti. Donc, c'est pour vous dire que, quand même, c'est un mouvement qui a été créé, qu'il faut prendre au sérieux, il faut les signaler, parce que tous les autres mouvements à travers le monde ont commencé par ces déclarations qui ont continué à exister jusqu'à l'heure où nous sommes. Donc, c'est un jeune homme qu'il faut prendre au sérieux, mais honnêtement, c'est un jeune homme qui ne répond pas quand même aux aspirations de tous les peuples, parce que les peuples, c'est vrai, les raisons qui lui ont poussé à créer ce mouvement, tous les peuples, en tout cas de la région, sinon du Mali, récentent ces mêmes raisons, parce que les peuples sont stigmatisés maintenant par l'État malien en premier lieu, parce que c'est l'armée qui les stigmatise. Parce que si tu es habillé en peuple, tu as des problèmes dans cette zone, même au marché, au niveau de Mopti, tu as des problèmes. Si tu es sur une moto avec un habillement peul, tu as des problèmes. Donc, c'est un groupe qu'il faut prendre au sérieux. Donc, l'État doit prendre toute sa responsabilité et les responsables peuls également, pour ne pas que ce groupe se transforme, prenne une autre identité. Donc, en faisant quoi? L'État, en rendant justice, en essayant d'éviter d'amalgame, tout que n'est pas égal à djihadiste, et également les peuples qui font souffrir à travers leur comportement, comportement vestimentaire, leurs coutumes, etc. Donc, que justice soit rendue aux peuples victimes. Sinon, je vous avoue que la majorité des jeunes filles, ceux qui sont frustrés, ils risquent d'allier ce groupe s'ils n'ont pas, chacun de son côté n'a pas pris sa responsabilité. Donc la nouvelle est dans la région ici et la nouvelle est répandue un peu partout.
Alors, vous croyez que la création de ces mouvements peut renforcer en fait la menace que constitue le radicalisme? Ça peut contribuer à radicaliser beaucoup de jeunes?
C'est ce que j'ai dit, si quelqu'un ne prend pas sa responsabilité à son niveau, aux responsables peuvent se lever et quand même sensibiliser les jeunes pour ne pas rallier ces groupes. Hein, à l'État de jouer sa pleine responsabilité en rendant justice, en évitant l'amalgame, en évitant de stigmatiser une ethnie face à une autre, à éviter d'armer quand même une milice contre une ethnie. Si chacun de son côté joue sa responsabilité, je crois qu'on peut quand même mettre fin à ce genre de situation. Mais tant que chacun de son côté ne joue pas sa responsabilité, je vous avoue que beaucoup de jeunes vont rallier ce groupe. Comme il prétend le dire, il a certains éléments, même si ça ce n'est pas vrai. Si rien n'est fait, il risque d'avoir plus que 700.
Alors nous allons faire un tour à présent à Tombouctou. La liaison semble rétablie avec Yeya Tandina. Monsieur Tandina, vous suivez donc les nouvelles, vous êtes au courant de la création de ce mouvement par un certain Oumar Aljani. Alors il est en train de proférer quand même des menaces à l'encontre de l'armée malienne. Vous pensez-vous qu'il faut prendre ces menaces au sérieux?
Oui, c'est moi je pense que en réalité ce n'est pas pour rien qu'il l'a fait, mais quand nous essayons de voir déjà ces revendications, et puis, il ne faut pas qu'on se trompe là. C'est lui qui déclare la guerre à l'armée malienne, a déclaré la guerre à la République. Donc, ce monsieur dit qu'il n'est pas séparatiste, il n'est non plus djihadiste, mais c'est pour restaurer l'identité d'eux, je ne sais pas quoi, mais seulement son ennemi reste l'armée malienne, quoique son ennemi est le Mali. Il ne faut pas qu'on se trompe. Sur ce plan, lui-même, il a décliné sa position. Et si vous voyez même la guerre des séparatistes, au début, il a commencé par l'attaque des bases de l'armée malienne, c'est ainsi que la République a senti que le CNRS. Donc, quelqu'un qui l'avoue, qui dit que je suis contre l'armée malienne, donc déjà contre la République. Je crois qu'il faudrait prendre ça au sérieux. Ensuite, vous savez que la création de ce mouvement aujourd'hui permet aussi d'attirer, d'avoir beaucoup d'argent, parce que dans des zones de tension comme ça, aujourd'hui, la communauté djihadiste a besoin de recruter. Alors, la seule façon de recruter, puisqu'on ne peut pas faire le recrutement clandestinement, il faudrait avoir un mouvement bien connu et avec des éléments sûrs. En ce moment, ça vous rapportera beaucoup. Alors, c'est le moment de créer chacun, de créer son mouvement, alors pour vendre les éléments à la situation.
On va vous retrouver dans un instant, Yaya Tandina. Nous retournons dans ce studio. Nous vous adressons à vous, Célia d'Almeida. Alors, Célia, les organisations de défense de la cause Peul ne se reconnaissent donc pas dans les déclarations d'Oumar Aljana. Elles ont d'ailleurs condamné la création du mouvement. Certaines de ces organisations pensent d'ailleurs qu'Oumar Aljana a d'autres idées derrière la tête. Ça peut être le cas selon vous?
Ben, c'est certainement le cas, à mon humble avis, c'est certainement le cas, parce que déjà, quelqu'un qui n'est pas Peul, qui se met chevalier défenseur de la cause Peul, déjà moi ça me met un peu bizarre. Ensuite, défendre la cause Peul et se déclarer ennemi de l'armée malienne, je ne vois pas en quoi les deux choses sont liées. Déjà qu'on parle de stigmatisation de cette communauté qui est, il est vrai, donc, qui vit des heures difficiles en ce moment. Donc est-ce que c'est en se créant un groupe politico-armé que l'on va régler la question Peul? Est-ce que c'est en s'attaquant à l'armée malienne qu'on va régler la question Peul? Et ces questions méritent d'être posées. Je pense que il est temps que la récréation s'arrête. Je me rappelle, le MNLA est né à peu près dans les mêmes conditions. On a commencé à parler, et puis après on a déposé une demande de récépissé, on a eu le récépissé, donc existence légale, et puis on a commencé à faire du n'importe quoi, et ça nous a mené là où nous sommes aujourd'hui. Donc je pense qu'il est très important que, et beaucoup, mais et Tandina le disent, il faut vraiment que l'État réagisse très vite. Moi je suis très peinée par les réactions des membres du gouvernement qui disent, ouais non, mais il faut pas le prendre au sérieux. Désolé, au début on n'a pas pris les gens au sérieux, et on en est là aujourd'hui. Donc je pense qu'il est vraiment important que ce monsieur, il est pas sorti de nulle part. Il a une formation militaire puisqu'il a fait partie du MNLA, il a fait partie de la rébellion, il sait de quoi il parle. Et il est vraiment important que les Peuls, déjà, c'est vrai, ils l'ont dit, mais qu'ils fassent attention pour que, justement, en utilisant leur cause, ils n'aillent pas, au contraire, les enfoncer davantage, et que l'État prenne ses responsabilités pour que ce truc soit tué dans l'œuf dès maintenant, parce que sinon, on risque de se retrouver... On a peut-être fini avec le cycle des rébellions Touareg, faut pas qu'on rentre dans le cycle des rébellions Peuls, quoi.
Alou Diora.
Donc moi, ce qui me touche beaucoup, c'est le silence assourdissant du gouvernement par rapport à ça. Quelqu'un sort, il annonce la création d'un groupe armé dont le but est de combattre justement l'armée malienne. Que les autorités gardent un tel silence, moi ça me touche beaucoup. Donc je pense que la balle est dans le camp du gouvernement, à eux de réagir, de dire, de se prononcer. Je sais, même si ils sont en train de préparer une action sur le terrain, cela ne devrait pas empêcher une première sortie, parce que on a vu qu'avec de tels groupes, comme Célia vient de le dire, que le MNLA est né dans des conditions comme ça, c'est des groupes qui savent aussi maîtriser la communication. Donc même si l'autorité aujourd'hui prépare une action sur le terrain, ne serait-ce qu'au plan communicationnel, l'autorité se devait de réagir avec fermeté et de se faire entendre par rapport à ça. Parce que la guerre, c'est aussi communicationnel. Donc moi, je suis vraiment peiné du silence de l'autorité.
Ne serait-ce que pour rassurer la population, pour dire aux gens, on a la situation en main, il ne faut pas que vous inquiétiez, on est en train de prendre des dispositions. Mais là, on ne dit rien. Donc on est tous là avec nos stress, avec nos peurs, en se demandant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter encore? Il est vraiment important qu'on comprenne que la communication, c'est pas forcément à des causes de comment on dit ça. J'allais dire démagogique, mais c'est pas ça, de propagande, voilà. Ouais. Mais c'est aussi pour rassurer, pour éduquer, pour informer les gens. Et là, on nous laisse dans un flou qui ne fait que renforcer l'angoisse et la psychose.
C'est déjà oui. La peur des populations.
C'est ça, à la psychose qui est déjà là.
Comme dit Célia, il faudrait que le gouvernement, les pouvoirs publics se donnent le moyen de communiquer. L'information est capitale dans ce genre de cas. Je vous rappelle qu'après l'invasion barbare des djihadistes, il faut le dire, et qui ont occupé les trois quarts du territoire, jusque vers le centre, et que l'armée et la France est intervenue, quand les djihadistes ont été défaits, la première région que l'armée a occupée, c'est le centre, c'était Mopti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'amalgame. Il y a eu des exactions contre les Peuls. Parce qu'ils portent le boubou, le turban, ils ont la peau claire. Il y a eu beaucoup d'amalgames, il y a eu beaucoup d'exactions. Depuis 3 ans, ça continue. Dans la région, je dirais, dans la région de Mopti, les eaux de forêt, les gendarmes, les policiers se livrent à des raquettes au détriment des Peuls. Les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu des plaintes des associations Peuls, etc. Ensuite, dernièrement, à Ténénkou.
Donc, vous voulez dire que les frustrations qui sont
évoquées se sont accumulées depuis 3 ans. La dernière en date, c'est quand les milices Bozo et plutôt les milices de chasseurs ont été armés. Parce que ce sont ces gens-là qui l'ont même dit qu'ils ont reçu des armes de guerre. Et c'est la communauté Peul, disons les pasteurs Peul, qui en ont fait les frais. Il y a eu 40 ou 60 de morts. Ça fait beaucoup. Et il y a eu une réunion à la maison de la presse ici, les communautés Peul, toutes les associations d'Intal Poulakou, dont Omar Aljana se réclame, et Tabital Poulakou, tous ont été inamines pour dénoncer ces exactions. Ils disent que les Peul ne sont pas une ethnie à part entière, c'est une ethnie intégrée. Et ce qui est vrai, dans toute la sous-région, il y a des communautés Peul qui sont intégrées. Et il y a eu un brassage. Donc, moi, je pense qu'il y a eu un retard à la détente des pouvoirs publics et du gouvernement de l'État malien qui devait prendre à bras le corps ce problème pour qu'il n'y ait pas eu, il n'y ait pas un remake de ce qui s'est passé avec les Touaregs. Et on en arrive avec ce leader sorti de nulle part. Non, il n'est pas sorti de nulle part. Il était du MNLA. C'est un guerrier qui a été formé, qui a été sur le terrain. Il revient à sa base maintenant pour se présenter en héros libérateur. Voilà le problème.
En tout cas, nous aurons l'occasion de suivre certainement avec vous l'évolution de ces dossiers. Nous abordons à présent le troisième sujet au sein donc de cette émission, les regains de confiance entre le FMI, le Fonds monétaire international et le Mali. Le Mali, dont certains diront qu'il est désormais dans les bonnes grâces de l'institution financière internationale. En tout cas, elle vient de mettre à disposition du pays plus de 17 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, valu au Mali de regagner de cette manière-là la confiance du FMI après la brouille d'il y a 2 ans? Nous adressons la question à vous, Mohamadou Bokoum, vous qui êtes donc à Mopti.
Moi, je dirais que le FMI, quand même, avait des conditions. Il fallait éclaircir un certain nombre de choses dans la gestion de l'État. Il fallait une bonne gouvernance dans les affaires publiques. Moi, je crois que c'est ce qu'il a accompli. Mais jusque-là, je ne sais pas, on n'a pas vu quand même de vrais rapports qui expliquent les raisons quand même qui avaient poussé le FMI de se retenir pour appuyer le Mali. Jusqu'à présent, en tout cas, on ne voit pas quand même des vrais rapports qui disent « voilà, c'était tel problème ». Bref, ce qui est sûr, c'est que le message lancé commencé par le FMI a été bien compris par le gouvernement, et le gouvernement tend à aller vers ça maintenant. Je crois que c'est ce qui a valu pour le gouvernement d'avoir quand même cette confiance au niveau du FMI qui a voulu quand même investir plus de 17 milliards de francs. C'est pas, ce n'est pas petit. Donc, reste maintenant à l'État de continuer à prouver sa bonne foi, à prouver quand même la bonne gestion de ses affaires publiques et à prouver également que tout ce substantiel investi dans le budget d'État va quand même servir au peuple malien et non à un État ou à un gouvernement ou à une seule personne. Je crois que cette confiance va revenir si toutefois l'État continue quand même à faire un pas dans la gestion des affaires publiques.
Studio Tamani, on se retrouve pour la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Je le disais, le troisième sujet que nous abordons donc dans cette émission, c'est le regain de confiance entre le FMI, le Fonds monétaire international et le Mali. Nous allons maintenant nous rendre à Tombouctou pour retrouver Yaya Tandina de l'OTM Tombouctou. Alors, monsieur Tandina, vous avez une page en ligne, on l'aura dans un instant. Alors, je crois que on a quelques problèmes avec lui et on va retourner dans ce studio. Alors, nous allons maintenant nous adresser à vous encore, Célia d'Almeida. C'est le gain de confiance entre le FMI et le Mali. Vous vous enregistrez certainement?
On ne peut que s'en réjouir. Maintenant, ce que je voudrais préciser, c'est que le FMI, c'est pas une entreprise philanthropique, une société de philanthropie, c'est des investisseurs, c'est des gens qui prêtent de l'argent et qui le récupèrent avec des intérêts, d'accord? Donc ils n'ont pas intérêt de toutes les façons à être fâchés longtemps avec quelqu'un avec qui ils ont des relations d'affaires. Parce que disons la vérité, c'est ça. On nous prête de l'argent pour réaliser des choses et nous devons rembourser cet argent, intérêts inclus. Et donc le Mali, je pense, a fait des efforts en ce qui concerne la gouvernance, en ce qui concerne la transparence. Je répète, a fait des efforts. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là. Mais je pense que le FMI avait besoin de certains gages qu'il a obtenus. Et d'ailleurs, en cela, ils avaient salué le travail de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Je pense qu'il y a une impulsion. En fait, c'est ça. Il y a une impulsion qui a été donnée, qui a satisfait la partie en face et qui s'est dit bon, vu le sens dans lequel vont les choses, on peut penser que ça va continuer et reprendre de plus belle la coopération. Le Mali est un pays qui est en train de se reconstruire, donc il y a des besoins colossaux. Et encore une fois, le FMI n'étant pas quelqu'un de philanthrope, il se dit plus j'investis, plus je vais récupérer. Donc ce qu'on donne au Mali aujourd'hui, 15 milliards de francs CFA, on applaudit tous, mais nous allons le rembourser sur des années, moi, mes enfants et mes petits-enfants peut-être. Donc quelque part, oui, c'est bien, comme l'a dit Bokoum, il faut encore que cet argent serve à quoi il est destiné, et je crois que si le FMI fait confiance au Mali, bon, nous les Maliens, nous pouvons accorder le bénéfice du doute.
Alou Diawara, dans le document, le communiqué donc du FMI, on voit, on parle de progrès enregistré, on parle de croissance robuste, mais les Maliens de la rue a une autre appréciation quand même de la situation. Dans les pays, les chiffres des institutions internationales ne disent-ils pas quelque chose?
Justement, les chiffres là ne se mangent pas et on ne ressent pas dans l'assiette du citoyen lambda. C'est ça le problème. Donc, je pense que c'est une sphère macroéconomique entretenue entre le FMI et les États, et totalement au-dessus des populations qui n'y comprennent pratiquement rien, pas plus que ces populations-là ne voient les retombées de ces décaissements au fil des ans dans leur assiette. Donc moi, je pense que de décaissement en décaissement, comment se traduit ce décaissement en réalité dans l'assiette des gens, dans le panier de la ménagère, je pense que c'est ça la question qui mérite d'être posée. Et l'autre élément que je souhaite ajouter, c'est que le FMI, elle l'a dit, prête, mais il y a également des conditionnalités. Mais moi, je trouve que on devrait plutôt savoir comment nous-mêmes on peut s'apprendre nous-mêmes à pêcher au lieu d'attendre que le poisson nous arrive tout frais. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ils entretiennent ces prêts là, ça nous c'est un lien de dépendance éternelle qui est là. Donc il faut que nos États, nous on devrait tirer toutes les leçons avec quand le FMI a claqué la porte. Donc en 2014 on a eu beaucoup de problèmes. Donc il faut qu'on sache comment quel peuvent être les alternatives à explorer pour qu'on soit moins dépendant de ces institutions de Bretton Woods aujourd'hui qui n'entretiennent que des relations de dépendance permanentes entre eux et les États.
Ah, Sylvia qui veut...
Oui, je voulais réagir. Je veux dire surtout qu'il y a des exemples qui prouvent que c'est possible de se passer de ces pays-là. Il y a des pays en Afrique australe, je pense la Tanzanie, si je ne me trompe pas, hein, qui ont dit nous, on n'en veut plus. Et ils ont souffert pendant 5-10 ans, mais aujourd'hui, c'est des pays qui vivent très bien, qui ont des petites dettes, ils s'en sortent. Un pays comme l'Éthiopie où, quand il y a des grands chantiers, au lieu d'aller demander l'Union européenne, etc., ce sont les citoyens qui mettent la main à la poche. Au lieu de donner les 500 francs pour les équipes nationales qui ne les reçoivent jamais, eh bien, on pourrait prendre les 500 francs de chaque Malien et les investir pour faire des projets d'infrastructure pour le pays. Et comme ça, on n'aurait pas de dettes envers des gens qui vont nous les réclamer sur 100 à 150 ans.
Omar Koulibaly, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps.
Le groupe de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, ce ne sont pas des entreprises philanthropiques. On vit ce calvaire depuis la fin de la dictature. Si vous vous souvenez, avec Moussa Traoré, l'ajustement structurel a commencé. On a bradé toutes les entreprises publiques qui faisaient notre fierté. On a voulu privatiser à tout va. Et des milliers, centaines de milliers de Maliens se sont retrouvés à la rue. On en sent jusqu'à présent les effets. Au Mali, quand même, les compressés, les partants volontaires ne sont pas au bout de leur peine. Leurs droits n'ont pas été payés. Les FMI, la Banque mondiale sont au courant. Qu'est-ce que ces entreprises ont fait? Elles n'ont pas d'âme pour le Malien. La souffrance du Malien, c'est qui les intéresse, c'est la tirelire. Faire des affaires, comme Célia l'a dit, ils viennent dans un but intéressé. C'est à nous de nous prendre en charge. Parce que la dette, c'est une spirale infernale, ça ne prendra jamais fin si on n'y met pas fin. C'est ça. Nous devons repenser nos politiques économiques et sociales, essayer de vivre selon nos moyens, avec le peu qu'on a. La douane, les impôts nous donnent suffisamment pour qu'on puisse impertir et financer les PME, PMI, pour que le Mali puisse arriver à se développer de manière endogène. Mais
cet argent ne manque pas d'ailleurs, cet argent ne manque pas. Le Mali produit suffisamment d'argent. Comment on peut imaginer qu'un État doive prêter de l'argent au FMI pour payer ses fonctionnaires? C'est inconcevable.
Nous allons donc aborder les derniers sujets. Un intergroupe parlementaire pour soutenir le programme d'activité du président de la République. Cela se passe bien évidemment à l'Assemblée nationale. L'intergroupe en question a été créé par le groupe parlementaire RPM et ses alliés de la majorité présidentielle APM, Adema Asma. Alors, suite à des articles de presse, le premier vice-président de l'intergroupe s'est empressé de préciser qu'il ne s'agit pas d'une fronde qui, je cite, consisterait à protester contre la gouvernance du président de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il selon vous? Alors, Célia d'Almeida.
Je n'en sais absolument rien, je vais dire la vérité. Je n'en sais absolument rien parce que c'est un flou artistique incroyable ce qui se passe à l'Assemblée nationale. D'aucuns disent qu'effectivement, c'est la façon de gérer l'institution par le président Issiaka Sidibé qui déplaît. Alors, si la façon de gouverner déplaît, il y a des textes à l'Assemblée nationale qui disent comment on procède quand il se passe des choses qui ne plaisent pas. Maintenant, donc j'accorde le bénéfice de la confiance au vice-président de ce nouveau groupe interparlementaire en disant que c'est plutôt pour soutenir le président de la République. Il est vrai qu'il y a des échéances qui arrivent, il est vrai que le président a besoin de se sentir conforté par les gens qui sont derrière lui. Mais cela n'empêche pas le débat, effectivement, autour de la gouvernance de l'Assemblée nationale, où les scandales se succèdent, où nous voyons chaque jour à la télé, pendant les interpellations, où les débats publics, comment ça se passe. Donc il est vrai qu'il y a de vraies questions autour desquels les députés doivent s'asseoir au lieu de faire du bruit à travers les médias, s'asseoir, discuter, planifier, aplanir les sujets de discorde qu'il peut y avoir pour que cette Assemblée nationale, qui est l'une, sinon l'institution la plus importante de l'État parce qu'elle représente le peuple, puisse vraiment faire le travail que nous attendons d'elle au lieu d'être une institution budgétivore mal gouvernée et tout ce qui s'ensuit.
Mohamedou Bokoum de Radio Kaoural de Mopti qui est donc en ligne. Alors, monsieur Bokoum, vous avez certainement entendu parler de ce groupe, cet intergroupe parlementaire qui vient d'être créé pour soutenir le programme d'activité du président de la République. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, en tout cas, moi, je suis un peu confus, hein, parce que déjà, le groupe qui était là, c'était pour soutenir les actions du président de la République, soutenir ce projet de loi, etc., etc. Et si un autre groupe se crée dans ce même groupe, en tout cas, il y a deux choses. Il y a deux choses. L'une, soit ils veulent casser avec ceux qui dirigent ce groupe parlementaire qui se trouve au sein de l'hémicycle, soit ils veulent créer quand même une fronde contre, quand même, au lieu de soutenir le président de la République, c'est une fronde qui va servir quand même de constituer une balance au niveau de l'Assemblée, parce que l'Assemblée est devenue un béni-oui, on le sait tout le monde, excusez-moi, c'est de mon point de vue, hein, toute loi qui vient, même si ça n'arrange pas le peuple, la majorité vote, peut-être qu'il y a deux options. Ça, ils veulent casser avec quand même les gestionnaires de ce groupe parlementaire RPM, ADEMA, APS qui existe, ou bien ils veulent casser avec le système de béni-oui-oui pour quand même constituer un contrepoids. De toutes les façons, à deux ans quand même de la fin du mandat presque du président de la République, créer un autre groupe parlementaire pour soutenir ces actions, moi je vois un peu flou jusqu'à présent dans la création de ce groupe-là.
Merci monsieur beaucoup, merci pour votre disponibilité. Retour dans ce studio, nous tournons du côté maintenant de Alou Diawara. Alou Diawara, le programme d'activité du président de la République, IBK, n'était-il pas déjà suffisamment soutenu par la majorité présidentielle?
Je peux dire que oui, mais je m'inscris dans la logique de l'intervention du précédent qui était au téléphone tout de suite pour dire que ça fait doublon. À supposer que c'est pour mieux soutenir les actions du président de la République, moi je trouve qu'il y a doublon là-dessus. Les mêmes partis de l'ancienne majorité, groupe parlementaire de groupe majoritaire à l'Assemblée, c'est les mêmes éléments qui constituent le nouveau groupe créé. Et moi, je me demande pourquoi maintenant.
Qu'il y a des non-dits, non?
Il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra pas tant que les choses n'ont pas avancé. Moi, je pense qu'il y a trop de mots. Au lieu de créer ça, je pense que les éléments qui constituent l'intergroupe pouvaient jeter toute leur force dans la bataille pour mieux soutenir le président dans ses actions. Moi, je pense que cela vaudrait mieux que de se jeter dans... On a créé ça. Les mots, ça ne veut rien dire. C'est seulement les efforts, les actions concrètes qui comptent pour un tel soutien. Donc, je pense qu'il y a doublon là-dessus. Ça n'avait peut-être pas lieu d'être, d'autant plus que le mandat des députés, ça reste peu. Donc, je pense que c'est peut-être peine perdue.
Omar Koulaye, pour 2 minutes.
Moi, je pense que peut-être qu'en politique, à Baudelaire, de bien ne nuit pas. Chaque jour, on voit des associations se créer pour soutenir les actions du président. À l'Assemblée, c'est un autre groupe interparlementaire qui naît. Peut-être que l'autre groupe était plus mou, à leur avis, raison pour laquelle ils ont formé un groupe plus pugnace, pour montrer leur détermination à soutenir le président de la République à un tournant crucial de son mandat. C'est possible. Ou bien ce groupe a été formé en réaction à la gestion calamiteuse du président de l'Assemblée nationale, auquel cas il y a Anguille Souroche. On va attendre le développement. Moi, je pense que...
Alors, donc, c'est sur ces propos que s'achève votre émission, le Forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nos invités étaient au nom de 5, Célia Dalméda du Journal du Mali, Alou Diawara, qui est journaliste indépendant, Mamadou Bokoum, que nous avons joint à Tombouctou, il est de la radio Kaoural, Yaya Tandina également joint, lui, il est à Tombouctou. Nous avions également dans ce studio Oumar Koulibaly, qui est donc de pays émergents. À la mise en ordre, Mamadou Ouattara, régime vidéo Petting, de la réalisation Ousmane Diadjetou, représentation Seydou Fomba. À toutes et à tous, au bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Haloud Moundi.
Chienne Berry.